l'Université de Paris 8 sous la direction d'Henri Méchonic, ici présent. Et son mémoire de DEA portait sur les misérables comme nouveau testament. Et elle en a fait profiter une publication, un ensemble intitulé Victor Hugo et l'Orient, un coffret paru aux éditions Maisonneuve et La Rose l'année dernière, et où elle a présenté un article, et même plus qu'un article, un essai sur cette question. Manako Ono poursuit actuellement la rédaction d'une thèse de doctorat sur Samuel Beckett. Et c'est sur cet auteur que comportaient diverses autres publications. Je me contenterai de souligner le lien, parfois peu connu, qui existe entre Beckett et Hugo, ne serait-ce que par une citation importante dans sa pièce « Oh les beaux jours » et par quelque chose qui traverse le grotesque, me semble-t-il, de Hugo et va jusqu'à irriguer le théâtre de Samuel Beckett. Alors nous allons écouter donc Manako Ono nous parler de voir ou ne pas voir.
Merci. Je vais parler de voir ou ne pas voir dans l'œuvre de Hugo. Après la mort de Monseigneur Bienvenu, le narrateur des Misérables fait une réflexion générale sur la cécité et l'amour. Disons-le en passant, être aveugle et être aimé, c'est en effet sur cette terre où rien n'est complet, une des formes les plus étrangement exquises du bonheur. Avoir continuellement à ses côtés une femme, une fille, une sœur, un être charmant qui est là parce que vous avez besoin d'elle et parce qu'elle ne peut se passer de vous, ce savoir indispensable à qui nous est nécessaire. Cette digression se termine par l'affirmation que le suprême bonheur de la vie, c'est la conviction qu'on est aimé. Aimé pour soi-même, disons mieux, aimé malgré soi-même. Cette conviction l'aveugle là. Comme le remarquent Myriam Roman et Marie-Christine Bellosta dans Les Misérables, roman pensif, l'emploi de l'infinitif et l'apparition des premières et deuxièmes personnes du pluriel donnent à ces remarques la dimension d'une expérience commune, tandis que l'emploi du pronom personnel « on » travaille à produire une osmose entre personnages, narrateurs et lecteurs. Cette dimension manifeste d'expérience commune nous rappelle combien la cécité est un motif important chez Hugo, l'un des plus présents même. Du court poème à un poète aveugle dans les contemplations jusqu'au personnage de Théa dans L'homme qui rit, les aveugles occupent une place privilégiée dans l'œuvre entière de l'écrivain. Cette récurrence tient probablement pour une part à l'admiration qu'Hugo professait pour de grands aveugles tels qu'Homer ou Milton. Cependant, une telle révérence envers quelques poètes consacrés ne suffit guère à expliquer la régularité avec laquelle l'œuvre reprend et développe des considérations sur l'œil et sur la vue. Dans quelle mesure alors la cécité peut-elle être une des formes les plus étrangement exquises du bonheur? Le dualisme de la lumière et l'ombre qui règne sur l'œuvre entière entretient-il lui aussi un rapport avec cette fonction particulière attachée à la cécité? D'ailleurs, quelle est exactement cette fonction et comment fonctionne-t-elle? Pour aborder ces questions, je voudrais en premier lieu examiner la relation entre cécité et œil de la conscience. Il s'agira ensuite d'analyser la cécité dans son double fonctionnement. Finalement, à partir du motif de la cécité, qui n'est autre que celui de l'offuscation et du dévoilement, je voudrais m'interroger sur la théâtralité des romans d'Hugo. Le poème « La conscience » montre la persistance de l'œil qui se fixe sur Cain. « Tu veux habiter sur la terre ». comme dans son sépulcre, un homme solitaire. Rien ne me verra plus, je ne verrai plus rien. On fit donc une fosse, et Caïn dit, c'est bien. Puis il descendit seul, sous cette voûte sombre. Quand il se fut assis sur sa chaise dans l'ombre, et qu'on eut sur son front fermé le souterrain, l'œil était dans la tombe et regardait Caïn. Naïvement, Caïn suppose pouvoir échapper au regard de cet œil en s'enfouissant sous la terre. Rien ne le verra plus, il ne verra plus rien, ou plutôt c'est parce qu'il ne verra plus rien que rien ne le verra plus. L'acte de voir se constitue d'abord dans une réversibilité possible. S'attaquer à la réversibilité, pense Caïn, ce serait du même coup mettre en danger la vue elle-même, car on est vu parce qu'on voit. Cette réversibilité de l'acte de voir est également soulignée dans les romans. De même que l'œil de Dieu poursuit Caïn dans sa fuite jusqu'au souterrain, un œil s'attache au pas des personnages et les incite à la prise de conscience. Dans Les Misérables, c'est Jean Valjean que suit le regard fixe de cet œil et qui en souffre. L'œil apparaît à deux moments cruciaux de la vie du personnage et donc du récit. Après le vol de la pièce de Petit Gervais et lors de la fameuse tempête sous un crâne. Le chapitre Petit Gervais est en effet truffé de mots qui concernent la vue, de verbes tels que voir, contempler, s'apercevoir, pleurer, aveugler, et de noms appartenant au même registre comme regard, hallucination, vision. Dans le premier cas, c'est l'image de la pièce volée au petit garçon et tombée sur les herbes qui joue le rôle de l'œil de la conscience. Il recula de 3 pas, puis s'arrêta, sans pouvoir détacher son regard de ce point que son pied avait foulé l'instant d'auparavant, comme si cette chose qui luisait là, dans l'obscurité, eût été un œil ouvert, fixé sur lui. C'est avec le surgissement final des larmes, alors son cœur creva et il se mit à pleurer. C'était la première fois qu'il pleurait depuis 19 ans. Autrement dit, par une action physiquement localisée dans les yeux, que s'accomplit cette première apparition de l'œil de la conscience pour Jean Valjean. À part son effet de catharsis, l'acte de pleurer possède une dimension religieuse. Le don des larmes, comme l'affirme Piroshka Nagy dans Le don des larmes au Moyen-Âge, constitue une figure historique et vivante de la valorisation chrétienne des pleurs. Son origine remonte aux mots de Jésus-Christ, « Bienheureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. » Et le christianisme recommande dès ses débuts de pleurer pour purifier l'âme et pour acquérir les consolations spirituelles. Une tempête sous un crâne nous montre Jean Valjean essayant une fois de plus d'échapper au regard tyrannique de la conscience. Il se leva de sa chaise et ferma sa porte au verrou. Il craignait qu'il montrât encore quelque chose. Il se barricadait contre le possible. La stratégie d'évitement est exactement celle de Caïn, de la conscience. Les motifs concernant la vue sont également bien présents et l'on y retrouve même mention des deux poètes aveugles, joints à un troisième visionnaire. À de certaines heures, pénétrer à travers la face livide d'un être humain qui réfléchit et regarder entière, regarder dans cette âme, regarder dans cette obscurité. Il y a là, sous le silence extérieur, des combats des géants comme dans Homère, des nuées de dragons et d'hydres, et des nuées de fantômes comme dans Milton, des spirales visionnaires comme Dante. À plusieurs reprises, l'apparition de l'œil de la conscience forme en effet un tournant du récit et vient guider des personnages vers la lumière de connaissance. La description des états de la lumière et de l'ombre est d'ailleurs d'une particulière richesse dans ces deux chapitres. Il s'agit bien sûr d'une constante des Misérables et finalement, pourrait-on dire, de toute l'œuvre d'Hugo, mais la densité en est ici remarquable. Dans ce cas, la cécité représente l'ignorance qui offusque la lucidité. Certains des personnages, comme Jean Valjean, se dirigent vers la connaissance et le bien, tournant progressivement le dos à l'ignorance et au mal, représenté par la couleur noire des ténèbres. L'œil de la conscience leur sert alors de guide et d'assistance. Pourtant, il existe d'autres personnages, comme Cosette, qui n'ont pas besoin de cette confrontation brutale avec un regard extérieur et qui peuvent accéder au bien tout en restant plongés dans l'état d'ignorance quant à la vérité, par exemple, sur l'identité de Jean Valjean. L'œil de la conscience ne leur apparaît jamais. En un certain sens, ils sont protégés des bouleversements psychologiques. On serait tenté de dire que la conviction d'être aimé pour soi-même, dont le narrateur des Misérables suppose qu'elle est propre aux aveugles, se justifie probablement par le fait que ces dernières se trouvent hors de la portée de cet œil accusateur de la conscience. Pourtant, un personnage mentalement aveugle, comme on peut dire que les Cosette, a-t-il les moyens d'avoir une conviction quelconque? Pour avoir la conviction d'être aimé pour soi-même, et disons mieux, aimé malgré soi-même, il est d'abord nécessaire d'avoir conscience qu'on est aveugle, et pour le moins d'avoir conscience qu'il existe en soi un ou plusieurs défauts, justifiant l'emploi de la préposition « malgré ». Or, cette conscience, Cosette ne l'a pas. Certes, les tourments psychologiques l'épargnent, dans la mesure même où elle se trouve à l'abri de l'œil de la conscience, mais précisément cette sécurité agit comme un manque et la prive du même coup de toute possibilité de progrès mental et donc de conviction. De son côté, Jean Valjean ne peut lui non plus avoir la conviction de l'aveugle d'être aimé malgré soi-même, car sa vie est constituée d'une alternance constante de ténèbres et de la lumière. C'est-à-dire qu'il ne reste longtemps ni dans la cécité, ni dans la lucidité, à la différence de Monseigneur Bienvenu, dont la conversion radicale lui a permis de demeurer dans la lumière de la sainteté, et malgré la conscience qu'il peut avoir de ses manquements, Jean Valjean ne se sent pas permis d'avoir la conviction d'être aimé malgré soi-même. À part Monseigneur Bienvenu, une telle conviction est réservée à des personnages comme Dea et Gwynplaine dans L'Homme qui rit. Dea est aveugle, mais voit ce que les autres ne voient pas. Comme l'affiche le titre du chapitre « Oculos non habet et videt ». Elle peut voir, par exemple, la beauté de Gwynplaine et son caractère divin. Comme le remarque Ursus à propos de la jeune fille, l'aveugle voit l'invisible et la conscience est une vision. Gwynplaine n'est certes pas aveugle, mais se trouve physiquement du côté de l'invisible et du voilé, puisque sa déformité masque sa véritable nature. Les deux orphelins sont conscients de leurs défauts physiques, mais s'aiment et s'acceptent mutuellement dans cette conscience de ce qui leur manque. Cette orpheline avait cet orphelin. Cet infirme avait ce difforme. L'un et l'autre sont donc atteints à la fois de cécité et de lucidité. La lucidité des aveugles suggère un double fonctionnement du motif de la cécité dans les romans d'Hugo. Les personnages sont victimes d'une offuscation physique ou mentale qui les rend incapables de saisir ce que d'autres n'ont aucune peine à comprendre, mais en même temps, ils dégagent une lumière éclaircissante sur le monde extérieur. Comme le remarque Annie Versfert à propos des Misérables, dans le livre Les Misérables, l'œuvre, roman et théâtre d'Hugo, foisonne en effet de yeux de l'heure. Mais les leurs marchent parfois à l'envers des intentions de celui qui les préparait. C'est par exemple le cas de Thénardier avec Marius. Ils servent alors de révélateurs de la vérité. Buvard Vavard, le chapitre qui contient la révélation de l'amour de Cosette pour Marius, est une autre illustration de ce mécanisme. opérant d'une manière originale. L'écriture déposée sur le vivar n'est qu'un griffonnage bizarre, mais reprend son sens intelligible en se renversant dans le miroir. Dans cette scène riche en vocabulaire concernant des phénomènes optiques tels qu'hallucination, illusion, mirage, les quatre lignes écrites par Cosette et reflétées dans le miroir faisaient l'effet d'apparaître dans de lueurs d'éclair aux yeux de Jean Valjean. Le jeu du miroir, effet justement d'une magie de la lumière, révèle une vérité sur cette jeune femme par ailleurs souvent comparée à la lumière elle-même. Lux facta est. Il a suffi que Jean Valjean comprenne le sens de ces lignes pour qu'il se dise que pour lui, la lumière du monde était à jamais éclipsée. Les preuves suprêmes, disons mieux les preuves uniques pour Jean Valjean, apparaissent sous la forme d'un dieu optique. Comme beaucoup de critiques, dont Pierre Albrecht ou Max Milner l'ont fait remarquer, la relation entre Jean Valjean et Cosette est similaire à celle qu'entretiennent Lucifer et sa fille dans la fin de Satan. Il s'agit là d'un couple antithétique, de l'alliance contradictoire d'un père démon et d'une fille qui est un ange. Ainsi, après que l'ancien forçat lui a confessé son identité, Marius se demande « Dieu se plaît-il à coupler l'ange avec le démon ?» Ce contraste de qualité est souvent représenté par l'opposition de la noirceur et la blancheur, ou celle de l'ombre et la lumière. Or, le dualisme de l'ombre et de la lumière est absolument constant dans l'œuvre d'Hugo, sans parler des rayons et les ombres qui affichent ce contraste dans son titre même, la présence simultanée de ces deux éléments opposés, mais indissolublement liés, est souvent associée à des matières spirituelles, comme c'est le cas à la fin de 93. Et ces deux âmes, sœurs tragiques, s'envolèrent ensemble, l'ombre de l'une mêlée à la lumière de l'autre. Ce dualisme, véritable liaison des contraires, doit à son tour refléter le double fonctionnement de la cécité dans l'œuvre d'Hugo. La cécité n'est pas seulement un sujet qui occupe une place importante dans l'œuvre d'Hugo et se situe au centre même du récit dans Les Misérables ou dans L'Homme qui rit. L'attirance d'Hugo pour ce motif peut sans doute aussi s'expliquer par le penchant que l'écrivain éprouvait pour les prophètes. Il n'en reste pas moins que tout nous invite à penser que l'action de voir compte beaucoup dans cette œuvre. Myriam Roman et Marie-Christine Bellosta ont déjà remarqué dans Les Misérables romans pensifs que pour exister, un personnage devait être vu. D'où la mention fréquente de passants qui sont décrits comme autant de témoins dans des actions qui se déroulent. Or, l'action de voir et celle d'être vu concerne profondément le théâtre et c'est peut-être par elle que les romans d'Hugo se trouvent le plus intimement reliés à son théâtre. Dans son article « Les misérables théâtres romans », Anne Versfert signale la récurrence remarquable dans les romans comme dans le théâtre d'Hugo d'une situation théâtrale quasi caricaturale, celle du témoin cassier qui voit sans être vu, du spectateur de théâtre comme du traître qui épie. Ce sont donc des situations de comédie ou de vaudeville qui sont écrites ou jouées chez Hugo, ce qui permet à Anne Versfert d'affirmer qu'il n'est pas de pièce où, pour le bien ou pour le mal, un personnage ne se dissimule pour épier ce qu'on lui cache. De même, les romans d'Hugo sont-ils parcourus de jeux de cache-cache et de décryptage. On pourrait en conclure, à l'instar d'Agnès Bersfeld, que voir, c'est voir ce qu'il ne faut pas voir. Cette dimension de l'interdit est riche de potentialités en diverses directions, mais il me semble pour ma part que le champ qui nous intéresse le plus soit celui de la religion. Si l'on met à part la passion d'Hugo pour l'occultisme, qui est bien connue, On retrouve en effet dans ces romans une grande abondance de phénomènes visuels qui peuvent se qualifier comme autant d'éléments religieux. Les apparitions, souvent mentionnées dans les titres des chapitres, ne sont rien d'autre qu'un dévoilement des choses ou des personnes cachées. L'inconnu y est souvent explicitement mis en scène comme voilé, à la manière de beaucoup de rites religieux. Par ailleurs, dans la Bible, la manifestation de Dieu s'accompagne toujours d'un aveuglement momentané et il est souvent précisé que nul peut voir de Dieu, que nul peut voir Dieu sans mourir. Moïse, par exemple, est autorisé à voir Dieu de dos, mais jamais de face. Tu ne peux pas voir ma face, car l'homme ne saurait me voir et vivre. Exode 33. La parole de Dieu est ainsi transmise aux prophètes au détriment de leur vision. C'est également lorsque l'œil se voile de larmes que le dévoilement religieux se produit chez celui qui l'affecte. On a vu avec Jean Valjean que les larmes dans l'œuvre d'Hugo pouvaient avoir aussi cette dimension religieuse. En effet, comme le remarque Jacques Derrida dans Mémoire d'aveugle, les larmes sont en un certain sens l'essence de l'œil et le propre de l'homme, car parmi tous les animaux qui sont destinés à la vue, seul l'homme sait pleurer. C'est donc en pleurant que l'homme dépasse le savoir scopique et sait aller au-delà du voir et du savoir. Il ne voit ni ne voit pas, il est indifférent à la vue brouillée. Il implore, d'abord pour savoir d'où descendent les larmes et de qui elles viennent aux yeux. D'où et de qui ce deuil, ces pleurs de joie et cet or de l'œil. Si les motifs de voir ou ne pas voir occupent une grande place dans l'œuvre d'Hugo, ne peut-on discerner dans cette insistance le désir qu'éprouvait l'écrivain de voir au-delà de ce qu'on voit et donc de voir ce qu'on ne voit pas. C'est une façon de renouer avec le théâtre dans sa forme très ancienne et religieuse. Théâtralité qui s'installe non seulement dans le théâtre d'Hugo, mais dans son œuvre tout entière. C'est probablement aussi une façon de dépasser la question de voir ou ne pas voir, et de chercher ou de renouer avec un au-delà de la vision, à la manière des prophètes qui écoutent la parole de Dieu. Merci.